Bonjour à tout le monde, de la part du réseau de direction de l'Alliance chrétienne et missionnaire au Québec. C'est un grand moment qu'on a passé avec vous, autant vendredi, à rencontrer l'équipe de leadership de l'Église. Plusieurs n'étaient pas là, mais on vous a senti là à travers l'expression des passions qui animent ceux qui étaient présents avec nous. Ça a été très, très bénissant. J'aimerais juste vous lire, je lirai tantôt. Cette rencontre-là, vraiment, on vit ça chaque fois, le réseau de direction, de pouvoir, sur le terrain, rencontrer et voir l'action, où elle se passe. C'est tellement facile d'être déconnecté, c'est tellement facile d'être uniquement administratif, et de plus en plus, vous devez comprendre ça dans le rôle du réseau de direction, que ce n'est pas un comité administratif. Son rôle est bien sûr de superviser l'ensemble du développement de la famille d'Église au Québec, mais nous voulons aussi très intentionnellement jouer notre rôle prophétique dans la vie de nos Églises, et c'est ce que nous voulons faire avec vous cet après-midi. Nous nous sommes rencontrés donc le lendemain de notre rencontre avec vous, beaucoup de rencontres dans mon affaire, mais c'est pas grave, et nous avons échangé ensemble. J'ai demandé à chacun... Dans la prière, on a passé du temps dans la prière, quelle est la lumière de ce que nous avons reçu le vendredi soir? Quel est un mot prophétique que vous aimeriez donner à Dollard des Ormeaux en vue de l'œuvre à laquelle Dieu l'appelle? Et nous avons été extrêmement touchés par... cet appel communautaire que Dieu place sur vous dans le quartier de Cloverdale. Et on était là en réunion ce matin et on a pu donc visualiser également le prochain lieu qui sera votre forteresse, en quelque sorte, votre abri en même temps pour ceux qui souffrent. Et ça a été extrêmement édifiant et bénissant pour nous, tout à la fois qu'étant un défi. Et nous voulons donc vous adresser quelques mots. J'ai demandé, ça a été difficile, vous savez, parce que j'ai demandé à chacun de plusieurs de ces pasteurs-là, et vous savez qu'un pasteur, ça parle longtemps. Vous en avez l'exemple, ici, de ne donner qu'un mot, un mot prophétique, sans expliquer l'environnement du mot, juste un mot. Donc, ça demande de réfléchir, de prier, de vraiment considérer. Et alors que j'ai recueilli ces mots-là, ce matin, nous avons travaillé donc à une prédication communautaire, si je peux dire. On a réfléchi ensemble, demandant à chacun qui sentait que ce mot-là devait être partagé avec vous. Et c'est ce que vous allez entendre ce matin, enfin cet après-midi. Chacun a... de ceux qui ont à cœur de développer ce mot, de partager ce mot, qui est, en mon sens, en notre sens, une parole prophétique pour vous, dans ce ministère à laquelle Dieu vous appelle. Et comme premier mot prophétique, j'aimerais que vous puissiez entendre le mot « inattendu ».
Alors, vendredi soir, quand on a commencé, Francis nous a partagé un livre qu'il est en train de lire. Un livre qui nous demande je pense que c'est juste des femmes dans ce livre-là. C'est juste des femmes que Dieu a utilisées pour l'œuvre. Des femmes qui se sont consacrées complètement à l'œuvre de Dieu. Dans ça, il y en a deux qui sont venus dans la région de Québec. Et dans le début de l'Alliance à Québec, une des premières personnes qu'ils ont emmenées au Seigneur, si ce n'est pas la première, je ne suis pas tout à fait sûre, mais c'est dans les premières certains, c'est Mme Savard. Oui. Et quand je suis venue ici, puis que je vous ai rencontré, j'ai été surpris parce que je regardais Marie-André. Je dis, Wow! Une femme comme Madame Savard, elle s'est toujours impliquée. Quand je regarde Marie-André, une femme qui s'est impliquée. Elle a été la secrétaire du deuxième directeur du district, Yvan Fournier. Je pense que c'était la première secrétaire, d'ailleurs, de Yvan. Une autre personne que j'ai remarquée quand je vous ai rencontré, c'est Daniel Genet. Daniel Genet, c'est un frère aussi qui s'implique dans l'Église ici. Sa mère aussi s'est impliquée. Sa mère, c'est Céline Bastien Genet, qui a été la première secrétaire du premier directeur du district, Jess Jesperson. J'ai dit « Wow! » Un autre jeune que j'ai rencontré, qui était parmi vous, qui s'implique aussi, Christian Mass. Christian Mass, c'est le garçon de Raymond Mass, qui lui aussi a été ici, plus précisément à Sainte-Agathe, mais en fait dans la région de Montréal, qui lui aussi s'est impliqué, corps et âme, pour Dieu. Et je vois son fils qui suit et qui s'implique aussi, corps et âme. Dans la même église aussi, s'impliquent trois directeurs, corps et âme. Francis Persson, directeur du DSL. Jean Martin, directeur des bébés. Michel Houle, directeur et créateur Renversons les forteresses. Je regarde ça, je dis coudon, c'est presque notre patrimoine québécois dans la même église. Et tout à coup, en regardant ça et en vous écoutant, tous et chacun, c'est vrai que je ne vous connais pas tous, mais c'est les personnes que Dieu a mis sur mon cœur. Mais venu dans Jean 17, la prière sacerdotale de Jésus. La première partie, je prie pour moi-même, de Jésus. Jésus priait pour lui-même. La deuxième partie, c'est Jésus qui priait pour ses disciples. Et la troisième partie, c'est ceci. C'est Jésus qui priait pour tous ceux qui croiront en lui. Et le verset 22 dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. » Quand j'ai vu tout ce monde travailler ensemble, même Lise s'implique dans l'Église. Lise Harrison, je voyais Lise Hull aussi s'impliquer, qui expliquait son ministère dans l'Église. Je disais, wow! Écoutez le verset qui suit. C'est Jésus qui priait son Père. Moi avec eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un. Et qu'ainsi le monde voit et puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Amen.
Il y a 30 ans, j'ai commencé le ministère pastoral dans une église de Sainte-Agathe. Quand j'entends ces mots 30 ans, ça me fait vieillir. Je me sens vieux. Mais dans cette église, il y avait une jeune femme, adolescente, qui s'appelle Céline Bastien. Il y a aussi quelques années après, un an, deux ans après, il y avait une jeune couple qui sont arrivés dans l'église, Raymond et Louise Mass. Et Durant ces années, je voyais leurs enfants grandir. Et vendredi soir, donc je m'enchaîne avec ce que Claire a dit, mon mot c'est relève, la relève. Et je voyais Christian Mass, je voyais Daniel Genet. Et de voir le lien, comment le Seigneur les bénit ses familles. Donc moi, le mot relève, je vous encourage dans le Seigneur d'accueillir les parents. On parle de relève, oui, si vous voulez dire ça. Relève, on cherche la relève partout. Mais moi, le mot relève, c'est plus restreint dans le sens générationnel, famille, avec les enfants. Donc, je vous encourage d'accueillir les parents et leurs enfants, de les entourer, de les encourager, de les aimer, de prier avec eux et de pleurer avec eux. Et le Seigneur va vous bénir. Il va soulever une relève pour votre Église et pour son Église ici au Québec. Amen.
L'autre mot que donc il y avait inattendu et relève, un autre mot qui est dans notre liste pour vous, c'est continue.
Quand le Seigneur m'a donné ce mot-là, je ne savais pas exactement dans quelle portion de l'Écriture que j'allais le trouver. Et par après, j'ai pensé, et quand le directeur a demandé, est-ce que nous voulons partager ce mot-là, et Dieu m'a dirigé dans Genèse, chapitre 12, le verset 9. Genèse, chapitre 12, verset 9, je lis ceci. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. On est au début de l'appel d'Abraham, où Dieu a dit de laisser tes biens, tes parents, pour un pays que tu ne connais pas. Et cet homme a obéi à l'appel de Dieu. Il savait pas exactement où il allait, mais il faisait confiance à son Dieu. Dans ce chapitre-là, à partir du verset 7, on voit qu'Abraham a construit un autel à son Dieu. Il rentra en adoration à Dieu. Et le texte nous dit, Dieu l'a visité. Mais Abraham a continué à servir. Il arrive un peu plus loin à Bethel. Il construisait encore un autre autel et commençait à adorer Dieu. Donc on voit dans ses relations avec Dieu une croissance, dans son intimité avec Dieu, une croissance, une poursuite, une persévérance. Et ça n'arrête pas là. Le verset 9 nous dit aussi que Abraham continua dans sa marche vers le midi. Donc il ne reste pas là. Continue avec Dieu, continue dans l'obéissance, même s'il ne sait pas exactement où Dieu va le conduire. Mais il obéit, il ne marche par la foi. Vendredi soir, j'étais ici de voir des jeunes, des vieux, des responsables d'église, tous ensemble, qui semblent découvrir une vision à ce moment précis pour cette église. Vous avez longtemps dressé votre tente ici, à cet endroit précis. Et Dieu semble vous dire maintenant de vous déplacer pour aller dresser votre tente dans un autre endroit, là où nous étions ce matin. Il me semble que cette vision est assez claire pour vous. Et s'il en est ainsi, donc je vous encourage à continuer. À continuer à faire confiance à Dieu. À continuer à croire dans cette vision que le Seigneur vous donne. Là où il vous demande d'aller, nous savons pertinemment qu'il y aurait des difficultés, il y aurait des temps difficiles, mais le Dieu qui vous a gardé ici et qui vous donne cette vision saura aussi vous garder dans les temps et dans les moments difficiles. Continuez à garder cette vision. Nous savons aussi qu'Abraham, ce patriarche, a été pleinement béni par Dieu parce qu'il avait obéi. Il avait obéi. Il ne s'est pas arrêté dans sa marche, dans sa vision que le Seigneur lui avait donnée. Et le vœu de mon cœur pour l'Église de Léo aujourd'hui, pour vous qui êtes là ce matin, que le Seigneur puisse vous aider à continuer dans votre marche, à rester fidèle jour après jour, à lui faire confiance, qu'il vous garde dans son amour et sa paix, et qu'il vous bénisse.
Le mot suivant qui nous a été communiqué par le Saint-Esprit, et le mot « suivre », c'est le mot pour vous.
vendredi soir, j'étais très touché. Parce que je voyais une église qui était, le leadership qui était devant nous était passionné pour Jésus-Christ. Et c'est un mélange intergénérationnel de jeunes et de moins jeunes. Et pour moi, je me disais, Dieu, c'est ça l'église. Et à la fin, j'étais tressaillé dans mon cœur. Parce que moi, je prie pour toutes les églises au Québec, avec mon équipe de prière, mon église. Mais il y a certaines églises que je ne connaissais pas gros, vous faites partie de ceux-là. Et je peux vous dire une chose, je vais savoir pourquoi prier maintenant pour vous quand on va prier pour votre assemblée. Francis m'a demandé de prier vendredi soir et c'était inattendu. Et Dieu a placé un mot sur mon cœur pour votre église. Et ce mot-là, c'était un refuge, un centre de sauvetage. C'était le mot qui était resté dans ma pensée. Et quand Francis nous a demandé un mot prophétique, c'était le mot « suivre » que Dieu mettait sur mon cœur. Et il m'a ramené une personne que peut-être vous ne connaissez pas beaucoup, qui s'appelle Abdias. Tout le monde connaît Élie, qui a vaincu les prophètes de Baal. Mais peu de gens connaissent Abdias. Abdias, c'était le surintendant du roi Achab, qui était un mauvais roi. Et Achab avait une épouse qui s'appelait Jézabel. D'ailleurs, c'était Jézabel qui avait amené Achab à adorer et à se tourner vers les prophètes de Baal et à adorer Baal. Mais Abdias était un homme qui est dit dans les Écritures, dans un roi, qui était fidèle à Dieu et il avait la crainte de Dieu. Et Abdias, moi je l'appellerais le Oscar, il y en a plusieurs qui ont vu le film La liste de Schindler. La liste de Schindler. J'ai de la misère à le prononcer un peu. Alors Oscar Schindler, ce qu'il avait fait, il avait caché des Juifs pour les protéger parce que leur vie était mise à mort. Dans le temps d'Achab, Jézabel, sa femme, avait fait mettre tous les prophètes de l'Éternel à mort. Jésus dit, l'ennemi est venu pour voler, dérober et détruire. Il a mis ce monde à mort. Mais Jésus est venu. Il est venu bâtir son Église dont nous sommes le fruit. Nous sommes l'existence. Et Abdias, qui l'a fait dans le ministère, j'appelle ça un ministère caché. C'était pas visible. Personne ne savait ça. Mais il avait caché 100 prophètes de l'Éternel. Élie pensait qu'il était tout seul. Mais Abdias avait caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 dans une grotte, 50 dans une autre grotte. Et Dieu avait fait venir à travers Élie la sécheresse. Il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, Abdias a nourri et donné, il a fourni le gîte par la grotte, la protection, le centre de sauvetage. Il a donné la nourriture, l'Église donne la nourriture. Il a donné l'eau, l'Église amène la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Et il a protégé dans un refuge les disciples, les messagers, les prophètes de l'Éternel. Alors mon mot qui voulait dire « suivre », c'était que Abdias était toujours à observer, mais où sont les prophètes, les hommes et les femmes de Dieu, afin de les mettre à l'abri dans la main du Tout-Puissant, afin qu'ils puissent accomplir leur ministère. Et vous êtes ce refuge, je dirais, ce centre de sauvetage par l'annonce de l'Évangile dans un milieu où est-ce que les gens souffrent énormément, où est-ce que les difficultés sont grandes. Je parlais avec Mimi tantôt, on me partageait comment elle annonce l'Évangile dans la région et combien les familles sont défavorisées. Mais Jésus est la réponse. Jésus est la réponse parce que la détresse est à l'intérieur. Alors, je prie que vous soyez les Schindler, les Abdias de Dollard-des-Ormeaux, à la gloire de Jésus-Christ. Amen.
L'autre mot, un autre mot qui a été donné pour vous et par lequel le Saint-Esprit veut vous encourager, c'est le mot compassion.
Bonjour frères et sœurs. Vous êtes heureux d'être ici ce matin? Ah, cet après-midi. Moi, c'est toujours le matin, alors c'est facile de se tromper. Lorsque je voyageais de Gatineau jusqu'à... Oh, montez pas le son trop fort, s'il vous plaît. Lorsque je descendais, ou on monte à Montréal, je ne sais pas, de Gatineau à Montréal, il est venu sur mon cœur de présenter un chant que je ne ferai pas maintenant, que je ferai peut-être un peu plus tard, et que je vais vous inviter à chanter d'ailleurs. Mais un chant qui nous parle du retour du Seigneur. Quels sont ceux d'entre vous qui ont hâte au retour du Seigneur? Alléluia! Moi, j'ai hâte, et je veux hâter l'avènement du Seigneur Jésus. Comment est-ce qu'on fait ça? Hâter l'avènement du Seigneur Jésus. Je crois vraiment que c'est en recherchant la sainteté, la sanctification de tout notre cœur et en étant une lumière sur cette terre. Parce que le Seigneur nous dit que viendra la fin lorsque tous auront entendu. Alors viendra la fin. Et lorsque notre frère bien-aimé Francis nous a demandé de penser à un mot, ce qui m'est venu à mon esprit, qui n'avait aucun rapport sur le moment avec le jour viendra où le Seigneur va venir nous chercher, c'était le mot compassion. Et je réalise que l'Église ici est en train de prendre un tournant important avec ce déménagement, un nouveau lieu, probablement une nouvelle mission. Une mission qui va demander certainement continuité, ce qu'on entendait, persévérance, compassion. Et lorsque j'ai commencé à prier et à rechercher la face de Dieu, en sachant qu'on allait dire un petit mot ce matin, le Seigneur m'a conduit vers Matthieu chapitre 25, et je vous invite de tourner. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire », n'est-ce pas le retour du Seigneur ça? « Lorsqu'il va revenir dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire et toutes les nations seront rassemblées devant lui. » Hey, imaginez un instant, on va tous être là ensemble. Des gens de toute langue, toute race, toute nation. Ah, ça va être un moment exceptionnel. Mais il y a un moment plus tragique qui arrive. Celui qui dit, il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car, quoi? J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. Alors les justes diront quoi? Quand est-ce qu'on a fait tout ça? Et là, le Seigneur a dit ceci. Au verset 40. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères à Cloverdale, dans la mesure où vous avez fait ça à l'un de mes plus petits, est-ce que je comprends de ce que Pasteur Michel nous a partagé? C'est que c'est une mission qui va vous amener à prendre soin des gens qui sont là. C'est un ministère de compassion. La compassion m'amène à vous parler certainement de l'amour. On ne peut pas faire ce genre de choses sans que ce soit motivé par un puissant amour. Parce que tout ce qu'on peut faire, si on n'a pas l'amour, on est comme une cymbale qui retentit. Alors ma prière pour vous, c'est que ce soit une compassion profonde, motivée par un puissant amour pour le Seigneur, premièrement, un puissant amour pour les frères et les sœurs, deuxièmement, et pour votre prochain à Cloverdale. Et si vous regardez le mot Cloverdale, et j'ai eu comme une espèce de petite vision pendant que Francis parlait et que je n'étais pas attentif, je te demande pardon, lors d'une longue réunion du RDD, je suis parti à un moment donné et j'ai vu le mot Cloverdale, et dans le mot Cloverdale, il y a le mot love. Cloverdale. L'amour pour Dieu, l'amour pour les frères, pour les sœurs, doit être vu comme un thermomètre. Ici, j'aimerais citer juste deux versets de 1 Jean, le chapitre 5, le verset 2, où il est écrit « À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et quand nous pratiquons ses commandements. Donc, on aime nos frères lorsque on pratique les commandements du Seigneur. Mais si vous tournez la page précédente, 1 Jean chapitre 4, verset 20, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il hait son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Alors, je crois que tout ce que vous allez faire à l'intérieur de cette mission particulière que le Seigneur vous donne doit être motivé par un puissant amour, premièrement un amour pour Dieu. Et ceci s'accompagnera d'un petit avertissement. Ayant travaillé pour cette année pour l'Armée du Salut, j'ai été beaucoup dans des œuvres sociales. Ça va vous demander certainement ces choses dont il est écrit dans Apocalypse, chapitre 2, verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas et tu les as trouvés menteurs. Verset 3. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Vous avez continué. Il y a eu une belle chose. Vous avez fait des choses merveilleuses. Maintenant, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et ma prière, c'est qu'à l'intérieur de tout ce que vous allez faire, par la grâce de Dieu, vous ne perdiez jamais le zèle du premier amour pour le Seigneur. Parce que le Seigneur va revenir dans sa gloire. Et ça, c'est la perspective dans laquelle vous devez faire tout ce que vous êtes appelé à faire. Dans la perspective que Dieu revient chercher son Église. Et qu'on doit en amener une grande gang avec nous autres. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci, Martin. Un autre mot prophétique pour vous. Amoureux. Le mot amoureux.
Je prendrai seulement 2-3 minutes, donc en tout 5 minutes. J'étais un prof de maths. Bon, quand j'ai appris le défi que le Seigneur a mis devant vous, j'ai dit waouh, c'est toute une tâche énorme. Puis quand c'est très excitant, mais en même temps, je suis conscient, et peut-être vous êtes conscient aussi que c'est une tâche énorme. Et vous êtes aventurier dans une zone inconnue, non familière. Alors, quand Francis nous a demandé un mot, là le mot qui me vient, c'est amoureux. Et le passage, c'est de... moi, je suis un type amoureux de ma femme. Je suis très amoureux de ma femme, mais elle est plus amoureuse de moi que je suis à elle. Non, mais chez nous, on veut être le plus amoureux. Le verset que le Seigneur veut que je vous amène, c'est l'histoire de Jacob. Vous savez, Jacob est allé voir son oncle, Laban. Et puis, il a beaucoup aimé Rachel, n'est-ce pas? Et puis, la Bible nous dit qu'il travailla pendant 7 années, et ça fut comme quelques jours pour lui, parce qu'il l'aimait. Il était amoureux de Rachel. Donc, je trouve ça excitant parce que je crois que vous avez besoin de beaucoup de motivation, de persévérance, tout ça, dans ce que le Seigneur va vous guider. Mais c'est clair qu'avec l'amour, tout est devenu facile. C'est comme 7 années de ouvrage, comme disent les Québécois, de l'ouvrage. Il y aura beaucoup d'ouvrages, je crois. Je crois que Jacob était traité d'une façon injuste aussi. Peut-être vous allez rencontrer des choses injustes, des choses, je ne sais pas, inattendues. Mais là, je crois qu'avec l'amour, vous allez passer tout ça en joie et en douceur. Et là, je vois aussi le résultat que Dieu a donné à Jacob. Vous voyez, il est devenu riche, hein, très riche. Ça veut dire que le Seigneur l'a béni beaucoup, beaucoup. Vous voyez, à la fin, il a fait accoucher beaucoup les petits de ses troupeaux. Hein, les petits troupeaux de... OK. Donc, je crois que c'est le mot que je veux vous encourager, c'est d'être amoureux de Jésus. Vraiment, et ça m'a beaucoup touché quand vendredi, Marissa nous a dit qu'elle avait vraiment le cœur de aider les jeunes de tomber en amour avec le Seigneur. Ça, j'ai dit, oui, c'est ça, il faut être amoureux de Jésus. Donc, c'est ça. Merci bien. Seigneur vous bénisse.
Amen. Un autre mot prophétique pour vous, c'est le mot feu.
Je suis vraiment contente d'être ici avec vous autres. Après vendredi soir, j'avais hâte de voir qu'est-ce que c'est le reste de l'Église. Je voyais les gens vendredi soir, les leaders de l'Église étaient en feu pour le Seigneur. Puis étaient aussi en feu pour les projets qu'il avait dans l'Église. Il avait vraiment ça à cœur. Et c'est le mot qui me venait à l'esprit quand Francis m'avait demandé. Puis là, il fallait expliquer que le Seigneur me donne quelque chose à vous donner à propos de ce mot-là. Puis ce matin, quand j'ai prié, il y avait quelque chose qui est venu à mon cœur. C'est le feu est bon pour deux choses, peut-être plus, mais les deux choses principales, c'est pour la chaleur et c'est aussi bon pour illuminer les choses. Dans les vieux temps, il n'y avait pas d'électricité, alors toutes les lumières étaient avec le feu. Puis on voit ça en Matthieu chapitre 5, ça parle de « C'est vous qui êtes la lumière du monde, une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour mettre sous un seau. Au contraire, on place sur le porte-lampe d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est aux cieux. » Puis, je vous vois comme ça. Vous êtes une lumière sur une colline. Même s'il n'y a pas une vraie colline ici à Dollar, vous êtes la lumière ici. Puis, l'autre chose que je voulais dire, c'est la lumière est comme la chaleur. Et quand j'étais là vendredi soir, j'étais vraiment contente. C'est vraiment bon d'être avec les chrétiens en feu. C'est comme la chaleur. Moi, je suis une personne qui n'aime pas la noirceur, puis je n'aime pas le froid. Alors, le feu, c'est vraiment important pour moi. Quand on est en été, puis un feu de camp, on veut tous être proches à le feu. Puis vous autres, vous dégagez la chaleur. Et moi, j'aime être avec ça. Je suis sûre que d'autres chrétiens aussi veulent être avec vous autres. À cause de ça. Alors, avec la lumière et la chaleur, vous allez attirer le monde à Jésus et à votre Église.
Merci, Dieu, d'être que vous puissiez recevoir ces mots avec... et parfois, à l'intérieur de ces mots-là, il y a certaines choses qui viennent nous rejoindre, nous toucher. Mais ils s'adressent autant à vous individuellement qu'à vous de façon communautaire. J'aimerais, moi, vous dire le mien qui est le mot « prévaloir ». Et quand Jésus s'adresse à Pierre afin de lui dire qu'il lui remettrait les clés d'une grande mission, il lui dit « Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. » Et Dieu vous appelle à être une Église de victoire, à être une Église victorieuse qui va aller et qui va, dans ce milieu là-bas, et amener la libération à ceux qui en ont besoin. Rappelez-vous la mission première de Christ qui, dans le temps, dit « Dieu m'a appelé afin de libérer les captifs ». Et c'est ce que vous, Dieu vous appelle à faire. Je partageais avec certains un vendredi soir comment souvent dans les milieux, on voit des fois des maisons plus pauvres venir dans des quartiers plus cossus, puis on dit « Oh, ça va réduire la valeur des maisons », puis ainsi de suite. Et Dieu, en vous envoyant là, veut vous amener à être une plus-value dans le secteur. Dieu veut vous amener à être une influence qui va transformer le tissu social là-bas. Vous voulez et vous devez être cet instrument de transformation qui va élever les valeurs de ce contexte-là, de ce milieu-là là-bas. Dieu vous appelle à ça. Et Dieu veut faire de vous une église contre laquelle les portes du séjour des morts ne seront pas prévaloir. Vous serez une église forte de victoire. J'aimerais vous rappeler ces mots que je lisais dans le magazine L'Actualité. Le Québec devint à ce moment-là un laboratoire de ce nouveau christianisme où la question de la justice sociale prendra une place dominante. Et on racontait ça en relation avec le 50e anniversaire de la Révolution tranquille. Et on a dit que c'est ça qui s'est passé à ce moment-là. Et quand j'entends ces paroles-là, je me dis, mais notre Église, nos Églises sont là encore, où on aspire à voir un christianisme renouvelé dans une pratique de compassion et de justice sociale nouvelle, démontrant les pieds, les mains et le cœur de Christ dans les communautés qui en ont tellement besoin, afin qu'on puisse voir le royaume de Dieu, le véritable royaume de Dieu, Christ vivant, à être glorifié et magnifié dans ce monde pour sa gloire. Nous étions à Buenos Aires pour une série de conférences prophétiques dans un quartier très pauvre où on avait un secteur où c'était extrêmement dangereux, la police s'y aventurait très rarement. C'était un peu abandonné aux gangs de rue, prostitution, drogue, violence. Et dans ce coin-là, il y avait une petite église, Lugano, qui est à peu près la grandeur du local de la Corde, juste un des locaux, l'un des locaux où on était ce matin, avec des chaises de plastique et un rétroprojecteur qui fait tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac. Tout était vieux, désuet. Les gens avaient été là et adoraient Dieu d'une puissance remarquable. Et sur le mur, une affiche qui disait « Être la différence ». En fait, même « Faire la différence ». Et je me disais « Wow ». Voilà des gens qui, souvent, ont peu de choses, ou voient à quel point ils sont dans toute cette grande étendue, n'ont pas grand-chose à offrir, même parfois. Mais ils sont prêts à se lever debout et à vouloir faire la différence. Et ils ont été très audacieux parce qu'ils ont ajouté un cinquième élément aux quatre distinctifs de l'Alliance, que vous connaissez bien, Jésus-Christ le Sauveur, on va se réchauffer, Jésus-Christ le Sanctificateur, Jésus-Christ le Guérisseur, tais-toi, toi, tu le sais, et Jésus-Christ le Roi qui revient. Et eux ont ajouté Jésus-Christ le Libérateur. Et ils avaient des mains avec des menottes qui étaient brisées. Et c'était leur vision dans ce secteur-là, d'amener la libération totale de toute la personne que Christ veut voir arriver dans la vie des gens. Et c'est notre prière pour vous, que vous puissiez être une église de libération qui pourra guérir, je dirais, holistiquement toute la personne pour lui et de redonner à ces hommes, à ces femmes, leur dignité, leur honneur, leur valeur. Ça me rappelle quand Christ a libéré l'homme dans le cimetière qui était rempli de démons puis qui envoyait ça d'un troupeau de pourceaux et que les gens sont partis en peur. Puis quand ils reviennent, l'homme est dans son bon sens et il est habillé. Et moi, je me dis, waouh, Jésus-Christ prend soin de toute la personne. Il n'a pas juste libéré spirituellement, il l'a aussi habillé. Waouh! Soyez des habilleurs en même temps. J'aimerais donc nous laisser avec ces paroles, mais je vais inviter Martin Angers à ce moment-ci, Martin, qui aimerait vous donner un chant qui, en même temps, est un chant prophétique.